l'Annonciation. Immédiatement, à la lecture de ce texte, à l'écoute de ce texte, des images nous viennent à l'esprit. Une jeune fille et un ange en tête à tête. La jeune fille est sérieuse, les mains jointes, un livre d'heures devant elle, et l'ange nous est montré dans une attitude de profond respect, agenouillé, à tout le moins inclinant la tête vers cette jeune fille pieuse. Parfois, tout s'inverse avec l'imagination des peintres. C'est la jeune fille qui s'agenouille devant l'ange et celui-ci la bénit. Selon les époques et les artistes, cette rencontre est hiératique ou échevelée. Elle est parfois d'une grande sensualité, la main de l'ange étant tout près d'effleurer celle de la jeune fille. Ces annonciations, en grand nombre, précèdent des visitations, des nativités, des adorations des mages, des fuites en Égypte. Elles inaugurent, elles annoncent, pourrait-on dire, l'iconographie de Noël dans un grand luxe de couleurs, d'ors et de lumières, comme pour compenser le clair-obscur des crèches à venir. Alors, comme les peintres de tous les siècles, nous ne pouvons pas ne pas lire ce texte sans le replacer dans ce qu'on pourrait, en appelant le langage des théologiens, appeler l'histoire du salut. Car c'est bien l'histoire du salut que l'ange annonce à Marie. En ces quelques mots que nous avons entendus à l'instant, « Le Seigneur est avec toi, tu vas être enceinte, et ce fils que tu auras, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Son règne n'aura pas de fin. Il sera appelé fils de Dieu. » Bien sûr, c'est dans cet esprit que ce texte nous est proposé pour ce dernier dimanche de l'Avent, le dernier dimanche avant que nous ne fêtions Noël et la naissance qu'il annonce. Pourtant, s'il est un point commun entre nous et les peintres de toutes les époques, c'est que nous connaissons la suite de l'histoire. Alors, mettons-nous dans la tête de Marie, qui, elle, seule avec l'ange, n'en sait rien de la suite de l'histoire. Bien sûr, Marie, c'est, nous n'en doutons pas, une jeune juive pieuse. Et comme une jeune juive pieuse, une jeune juive nourrie des textes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, les peintres nous la montrent parfois en train de lire la Bible, bien sûr. Alors, pour Marie, tout ce qui se passe, peut-être, fait écho à l'Ancien Testament. Parce que l'arrivée de Gabriel, l'ange au vol rapide, ne peut pas tout à fait surprendre une lectrice du livre du prophète Daniel, qui raconte comment l'ange est venu lui annoncer la lointaine reconstruction de Jérusalem. Et dans les paroles que Gabriel lui dit à Marie, Marie, elle sait sans doute entendre l'écho de celle d'Ésaïe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils. Ce fils, c'est Emmanuel qu'Ésaïe annonce et qui doit apporter la victoire sur les rois qui menacent Israël. Peut-être même peut-être. Lorsque l'ange lui apprend qu'Élisabeth s'apparente, trop âgée pour avoir des enfants, est tout de même enceinte et enceinte de 6 mois, peut-être lit-elle dans cette indication temporelle une allusion au message du prophète âgé, qui au début d'un même 6e mois annonce que le temps est venu de reconstruire le temple de Jérusalem. Nous sommes d'accord, Marie était une jeune fille pieuse. Sûrement. Instruite ? Peut-être. Nous n'en savons rien, en fait. Marie, après tout, c'est une jeune fille, et en Palestine, au temps d'Hérode, on devrait peut-être dire « ce n'est qu'une jeune fille ». Alors, ne confondons pas, c'est Luc, l'évangéliste, à n'en pas douter, qui a toutes ses références en tête. Et encore, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait en tête la référence au prophète âgé que je vous ai sorti de derrière les fagots tout à l'heure. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je vous l'avoue bien, bien volontiers, je ne l'ai pas trouvé tout seul. À mon avis, c'est une invention des théologiens modernes qui ont à leur disposition ces outils de recherche informatique dans toute la Bible, qui leur ont permis de trouver et de faire quelque chose d'une référence temporelle extrêmement banale, ces 6 mois qui n'ont peut-être pas beaucoup de signification et qui pourraient bien, à mon avis, avoir échappé à Luc, qui est peut-être seulement soucieux de préparer la scène suivante de son évangile, celle justement où Marie, tout juste enceinte, rend visite à Élisabeth. Pourtant, je ne vous ai pas épargné la référence au prophète âgé, parce que comme âgé invite à reconstruire le temple, Luc, c'est évident, lui, il construit l'histoire du salut. Mais Marie, elle, on comprend qu'elle soit troublée, qu'elle soit émue, qu'elle soit surprise en étant témoin de l'irruption de l'ange et en entendant sa salutation. Pourtant, troublée, émue, toute troublée, émue et surprise qu'elle est, Luc nous le dit bien pendant cette rencontre, Marie n'est pas pour autant passive. Elle pose des questions, elle tente de comprendre. Elle pose une question toute simple et pratique. Comment puis-je avoir un enfant, moi, qui n'ai pas encore eu de relation avec un homme ? Alors, tenter de comprendre, est-ce que cela veut dire comprendre ce que exactement on demande à Marie ? Est-ce que ça ne veut pas avant tout dire comprendre surtout qu'on lui demande quelque chose ? Car finalement, c'est au terme d'un très très bref dialogue avec l'ange qu'elle livre une acceptation qui ne lui est d'ailleurs pas véritablement demandé. Et elle le fait, vous avez entendu la traduction qui est la plus exacte, elle le fait dans une humilité, une soumission totale, elle dit « Je suis l'esclave du Seigneur ». De sorte que on peut certainement penser que elle n'a pas besoin de savoir exactement ce qu'il attend. Il lui suffit de comprendre qu'on attend quelque chose d'elle. Et c'est en cela, me semble-t-il, que Marie s'impose à nous ce matin. Non pas comme la future mère de Dieu, comme disent nos frères catholiques, mais comme une jeune fille à qui Dieu demande quelque chose et qui lui répond oui. Et cette réponse positive, ce n'est pas une réponse évidente. Parce qu'il y a une chose que Marie ne peut pas ne pas comprendre, c'est que cette histoire va la mettre en danger. Ne serait-ce que parce qu'elle sait bien que, jeune fille de Palestine qu'elle est d'il y a 2000 ans, devenir enceinte dans ces conditions, cela n'est pas forcément très facile à assumer. Bon, elle pourrait être rassurée, parce que si elle a peut-être lu Ésaïe, Daniel ou Agée, une chose est certaine, en revanche, c'est qu'elle n'a pas lu le chapitre 1er de l'Évangile selon Matthieu. Et pourtant, cette lecture pourrait la tranquilliser, puisque Matthieu y raconte comment Joseph, lui aussi, va recevoir un ange en songe. C'est moins spectaculaire et ça explique sans doute que ça n'a pas beaucoup intéressé les peintres. Un ange en songe qui le dissuadera, Joseph, de rompre ses fiançailles avec Marie et l'invitera au contraire à la prendre chez lui. Mais cela, évidemment, Marie ne le sait pas. Ce qu'elle sait, c'est que elle reçoit un messager qui lui demande quelque chose de difficile. Et elle dit oui. Et à partir de ce moment-là, elle porte l'avenir du monde en elle. Elle ne sait pas qui va naître d'elle. Et après tout, quelle future mère le sait. Mais elle décide de porter avec confiance cet enfant à naître, de le laisser grandir en elle et d'attendre sa délivrance. Elle porte l'avenir du monde en elle, viens-je dire. Me voici donc revenu à l'histoire du salut que je voulais contourner tout à l'heure. Mais cette histoire, elle n'est pas contournable, évidemment, parce que cet enfant qu'elle attend, nous savons que c'est Jésus le Christ, et nous savons que nous vivons de l'enseignement et de l'amour de cet enfant à naître. Mais permettez-moi, pour ne pas m'en tenir à revenir à l'histoire du salut, de revenir un mois en arrière. Pour ceux qui ont lu ou entendu sur le site de notre paroisse la prédication que nous avait donnée Robert Philippoussi le 22 novembre dernier, c'était le dernier dimanche avant l'Avent. Avant ANT, l'avant ENT. Robert nous rappelait que l'avant, c'était un temps vécu par les premiers chrétiens bien avant que ne soit célébrée à partir du 4e ou du 5e siècle la fête de Noël. Et qu'en fait, ce temps ne préparait pas spécifiquement à cette fête de Noël. Et que plutôt que de nous préparer à la naissance du Christ, il devait nous préparer au retour du Christ et à l'avènement du règne de Dieu. Alors, c'est dans cette perspective, bien plus encore peut-être que dans celle de la crèche, que nous pouvons vivre aujourd'hui l'annonce faite à Marie. Aujourd'hui, j'entends la vivre nous, la vivre en nous. Marie a reçu la salutation de Gabriel, mais nous, l'annonce que nous recevons, elle est très différente parce qu'elle s'est concrétisée précisément parce que l'annonce faite à Marie s'est concrétisée aussi et que Jésus est venu. L'annonce que nous recevons, nous, elle est très différente parce que ce Jésus qui est venu, il nous a enseigné qu'il fallait aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Il a ajouté qu'il fallait que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Et puis surtout, peut-être, il nous a montré l'exemple jusqu'au bout. Donc, aujourd'hui, c'est cette annonce-là que nous, maintenant, nous recevons. Alors, il me semble que notre vocation à nous qui recevons cette annonce, c'est de prendre le relais de Marie en apprenant de l'exemple qu'elle nous donne. Nous sommes dans une situation, comme le constatait Robert le 22 novembre, où Jésus est déjà là, mais où pourtant le monde n'a pas encore véritablement changé. Dans une situation où tous les défauts, toutes les injustices, toutes les violences de ce monde contre lesquels Jésus a tant lutté sont toujours là, demeurent, prospèrent, empirent. Dans une situation où tout reste à faire, où l'espérance est devant nous. Alors, peut-être peut-on dire que, comme Marie, nous portons aussi l'avenir du monde en nous. Nous sommes appelés à recevoir cette annonce, à être bouleversés par elle, puis à l'accepter sans toujours bien forcément la comprendre. Et à dire oui. Ce qui peut naître alors de ce oui ne doit pas plus à nous-mêmes que Jésus finalement ne devait à Marie. Ce n'est jamais notre création, ce ne sont pas nos constructions, nos œuvres, pour parler le vieux langage de l'Église. Non, c'est seulement le fruit de la confiance que nous plaçons en celui qui nous appelle. Et ce qui peut naître ainsi de nous, nous échappe, mais cela peut être une pierre, une toute petite pierre, qui participe à la reconstruction du temple que prêchait Agée, qui participe à la venue du royaume, mais qui participe surtout de la venue du royaume. Il nous appartient seulement, comme Marie, d'entendre cette annonce, de l'accueillir, de la laisser grandir en nous, de la laisser porter du fruit. parce que, comme Marie, je le répète, nous portons en nous l'avenir du monde. Nous trouvons que la barre est mise un peu haut. Alors, souvenons-nous de ce que l'ange a dit à Marie. Rien n'est impossible de la part de Dieu. Amen.